Shema Israël, Audi Israël, écoute Israël, Ensun Israël, escute Israël.
L'entretien de la Semaine Sainte avec Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. C'est la Semaine Sainte et pour nous accompagner dans ce sommet de l'année liturgique, nous sommes très heureux d'accueillir notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comme d'habitude accompagné d'Olivier Drapé, le délégué épiscopal à l'information et à la communication. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors Monseigneur Ayé, je le disais, c'est la Semaine Sainte. Pouvez-vous en quelques mots nous faire vivre, revivre ce qu'a vécu le Christ?
Alors donc la Semaine Sainte, comme on le sait bien, c'est la grande semaine de Jésus et l'Église est invitée à ce sommet de l'année liturgique à avoir les sentiments, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, qui étaient dans le Christ Jésus au moment où il allait donner sa vie pour le salut du monde. Nous sommes entrés dans cette grande semaine par le dimanche des Rameaux, bien sûr, hein, qui est appelé aussi dans la liturgie le dimanche de la Passion, où nous passons, sans autre forme de procès, de la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, alors que les enfants des Hébreux crient « Hosanna au fils de David » en l'accueillant dans sa ville, mais se méprenant sans doute sur le sens de sa messianité, de sa royauté, n'est-ce pas? Et l'on passe au récit de la Passion, qui nous plonge d'un coup dans le tragique du mystère du Christ et le dénouement même de tout son ministère public qui consiste dans sa passion, sa mort sur la croix et évidemment sa résurrection, mais qui reste encore un peu voilé lorsque nous sommes confrontés à ce long récit de la passion du Christ qui nous a été rapporté par les évangiles. Et comme nous le savons, les évangiles ont été écrits d'abord pour nous rapporter ce mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, que l'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire le mystère de la Pâque, du passage de la mort à la vie, dans lequel le Christ Jésus veut entraîner tous les hommes. Hein, quand j'aurai été élevé de terre, disait-il en saint Jean, j'attirerai à moi tous les hommes, et dans lequel il veut attirer chaque année davantage son peuple, c'est-à-dire son Église. Et en effet, la Semaine Sainte sera dominée par ce que l'on appelle le Triduum pascal. Et vous savez que ce qui nous introduit dans le Triduum pascal, c'est d'abord la messe chrismale. La messe chrismale qui devrait avoir lieu le jeudi matin, mais pour des raisons pratiques, il est assez difficile dans un diocèse vaste comme le nôtre de convoquer tous les prêtres qui sont appelés à se réunir dans la communion du presbytérium autour de leur évêque le jeudi matin, alors qu'ils sont en plein dans les préparatifs du Triduum pascal dans leur paroisse. C'est pourquoi cette messe chrismale est habituellement avancée au début de la Semaine Sainte et elle aura lieu donc lundi saint, cette année à Sainte-Marie d'Oloron. Et la messe chrismale n'est pas seulement la messe au cours de laquelle l'évêque va consacrer le Saint-Crème et bénir l'huile des malades et l'huile des catéchumènes pour l'année qui vient, mais c'est aussi la messe qui, dans l'Antiquité chrétienne, était appelée la messe de réconciliation des pénitents. C'était au fond le terme du carême comme itinéraire de conversion, comme itinéraire de pénitence, comme itinéraire de purification aussi par rapport au péché, et où les grands pécheurs publics, lorsqu'il existait la pénitence publique dans les premiers siècles de l'Antiquité chrétienne, eh bien étaient réconciliés solennellement avec Dieu, avec l'Église, donc recevaient l'absolution de leurs péchés et pouvaient ainsi, avec toute l'Église, ce peuple saint, cette assemblée sainte, eh bien célébrer dans la joie le Triduum pascal du Christ. C'est aussi la messe au cours de laquelle nous allons exprimer ou manifester la communion du presbytérium et par le presbytérium de l'ensemble de l'Église diocésaine. Un communion qui est d'abord une communion de grâce. Avant d'être une communion de type, j'allais dire, affectif et psychologique, elle est une communion profondément de grâce parce que l'Église est un mystère de communion. Et nous essaierons de le manifester. Les prêtres renouvelleront leurs engagements, les engagements de leur ordination sacerdotale devant l'évêque. Et le peuple de Dieu, représenté par les représentants des paroisses et des services, eh bien, sera là aussi pour manifester cette communion de l'Église avant d'entrer en communion dans la célébration du Triduum pascal.
Monseigneur Rayet, le jeudi saint cette année va revêtir un caractère particulier en raison de l'année sacerdotale.
Alors voilà, c'est sûr que nous sommes dans une année sacerdotale et le jeudi saint, comme vous le savez, dans lequel nous entrons par la messe dite in scena domini, c'est-à-dire de la scène du Seigneur au soir du jeudi saint, dans le Triduum pascal, et la fête du sacerdoce, hein, nous le savons, nous souvenons avec émotion de ces lettres aux prêtres que le pape Jean-Paul II, depuis le début de son pontificat et tout au long de son long pontificat, adressait aux prêtres à l'occasion de l'anniversaire de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie du sacerdoce par Jésus au soir du Jeudi Saint. Benoît XVI n'a pas poursuivi cette tradition de la lettre aux prêtres du Jeudi Saint, mais nous sommes toujours attentifs à son homélie de la messe chrismale, Jeudi Saint au matin, qui est en fait une sorte d'adresse à tous les prêtres, non seulement de son diocèse de Rome, mais du monde entier, à l'occasion de cet anniversaire donc du sacerdoce. Jésus, lorsqu'il entrait dans sa passion au cours de ce dernier repas, partagé avec ses disciples, prit un peu de pain, un peu de vin, sur lequel il prononça ces paroles inouïes et sublimes que nous répétons chaque jour dans l'Eucharistie. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, prenez et mangez, prenez et buvez, faites cela en mémoire de moi. » Et nous savons que non seulement Jésus instituait le sacrement de son corps et de son sang qu'il confiait à son Église, mais encore il instituait le sacerdoce en ordonnant les premiers prêtres que furent les apôtres, en leur demandant justement par grâce de refaire cela en mémoire de lui comme son mémorial, c'est-à-dire comme la présence vivante tout au long des siècles de ce sacrement d'amour, hein, qu'est le sacrement de son corps et de son sang livré, versé pour le salut du monde.
Le vendredi saint à l'église nous donne à méditer à la passion selon saint Jean, et c'est aussi un jour de jeûne et d'abstinence.
Voilà, alors le vendredi saint, c'est la commémoration en effet de la passion et de la mort de Jésus sur la croix, qui est une journée grave dans laquelle nous nous associons de plus près par le jeûne, c'est vrai, et l'abstinence, le jeûne pour ceux qui le peuvent évidemment, et l'abstinence, par un jour de pénitence plus grand, nous associons au mystère de la Passion du Christ que nous commémorons à travers la fameuse célébration de la Passion qui est extrêmement belle. Hein, vous savez que le Triduum pascal a été rénové, réformé, conformément à l'Antiquité chrétienne par le pape Pie XII et repris évidemment par la réforme liturgique du Concile et qui nous fait entrer dans le mystère de la Passion, et c'est le seul jour où nous n'avons pas célébré la messe. Voyez, dans le Jeudi Saint était compris dans l'Eucharistie instituée ou commémorée par l'Église, l'institution de l'Eucharistie, était inclus à la fois le mystère de la passion et de la mort de Jésus sur la croix et le mystère de sa résurrection par anticipation, et que l'on va dérouler à travers le vendredi et le samedi saint. Vous voyez, le vendredi saint, c'est la passion. Donc on ne célèbre pas l'Eucharistie parce que nous commémorons la mort du Christ et Jésus dans l'Eucharistie, il est vivant, il est ressuscité, il est glorieux. Même si, au cours des siècles, l'Église a pensé utile de pouvoir quand même donner la communion aux fidèles, le viatique, hein, le pain du passage, parce que nous ne pouvons pas nous passer de ce pain de vie, de cette nourriture céleste dont nous avons besoin pour justement surmonter les épreuves. Et nous pensons évidemment ce vendredi saint à toutes les épreuves de l'Église et toutes les épreuves du monde qui sont comme ramassées par le Christ pour en faire une offrande d'amour qui soit rédemptrice pour toute l'humanité.
Le samedi saint, c'est le jour de la prière silencieuse, c'est le Christ au tombeau.
Voilà, donc nous serons associés particulièrement dans notre diocèse à nos sœurs bernardines, hein, qui, comme vous le savez, dans le charisme, est de vivre comme Marie le silence du samedi saint, qui est un silence de deuil, de compassion, je dirais, avec toute la douleur de Marie et donc de l'Église et du monde, parce que le Christ est mort, Dieu est resté silencieux, semble-t-il, sur le Golgotha, comme il reste souvent silencieux apparemment sur la souffrance de l'humanité, et en même temps dans l'espérance de la Vierge Marie, dans laquelle est réfugiée toute l'espérance du monde, dans l'attente finalement de la victoire sur la mort, sur la souffrance, qu'a promise le Christ lui-même et qui va advenir dans la résurrection. Donc c'est un jour qu'on dit aliturgique. Il ne doit y avoir le samedi saint aucune célébration liturgique. C'est un jour de deuil, j'allais dire c'est un jour de vide. Les églises d'ailleurs sont dépouillées la présence réelle n'est plus à l'église. Il n'y a même plus de signes cultuels, sauf les autels évidemment, mais nus, voyez-vous, et le tabernacle ouvert et vide. Et puis dans la nuit pascale, nous allons célébrer eh bien, la résurrection du Christ, hein, dans la joie des premiers apôtres, des premiers disciples qui rencontraient le Christ ressuscité, de toute cette foule de chrétiens et de témoins qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui, et avec ces milliers, ces millions de fidèles chrétiens. Cette année, d'ailleurs, vous savez que les orthodoxes et les catholiques vont célébrer Pâques le même jour, hein, donc c'est une chose très importante pour nous, ce sera l'occasion de signifier, de manifester aussi l'unité des chrétiens autour de la célébration pascale, où nous célébrons en effet, dans la vigile pascale, qui est la mère de toutes les vigiles, qui est précédée par un rite du feu nouveau, de la lumière, du cierge pascal, d'une longue série de lectures de la parole de Dieu qui retrace toute l'histoire du peuple qui se prépare à vivre cette Pâque, qui n'est plus seulement une Pâque temporelle, une Pâque physique, comme la libération de l'esclavage d'Égypte pour le peuple hébreu, que nous commémorons en effet, mais qui est accomplie dans cette Pâque spirituelle, qui est le passage de la mort à la vie, en attente de notre résurrection finale, mais déjà eh bien, de vivre comme des ressuscités, hein, par la grâce du baptême qui est renouvelée dans cette vigile pascale.
Monseigneur Raillé, c'est avec attention, bien sûr, que nous écouterons sur Radio Lapourdie ou que nous lirons sur le site internet du diocèse votre message pascal. Signalons que cette émission est enregistrée le samedi 27 mars au matin. Nous allons maintenant aborder quelques sujets de la vie de l'Église et du monde avec le délégué épiscopal à l'information et à la communication, Olivier Drapé.
Monseigneur, vous venez de rentrer de Lourdes, où avait lieu l'assemblée plénière de printemps des évêques de France, dans une atmosphère qui effectivement est un peu troublée sur le plan médiatique et compte tenu de l'actualité autour des affaires d'abus sexuels dans l'Église. Nous allons y venir dans un instant, mais cette assemblée plénière était, je crois, la 50e assemblée plénière des évêques de France. Il y avait d'ailleurs la présence pour la première fois également du nouveau nonce apostolique, Monseigneur Ventura, à Lourdes. D'une façon générale, quelle était l'atmosphère, l'ambiance et dans quel climat se sont déroulés ces trois jours de travaux intensifs ou intenses de l'Assemblée plénière?
Alors, comme je le remarque à chaque fois, puisque c'est pour moi la quatrième Assemblée à laquelle je participe depuis ma nomination comme évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, je note avec pas mal d'autres de mes confrères qui ont une plus longue expérience de cette assemblée plénière, que nous connaissons aujourd'hui un climat apaisé et très fraternel, là où peut-être, paraît-il, il y a encore quelques années, des tensions beaucoup plus sensibles au sein de l'assemblée des évêques. Il semble vraiment que nous vivons ces jours dans un climat de grande fraternité, de grande communion fraternelle, d'attention les uns aux autres, d'écoute les uns des autres, même si, évidemment, un certain nombre de choses peuvent être dites de manière différente, mais en même temps on sent un vrai consensus de fond sur les grands enjeux de la mission de l'Église en France aujourd'hui, et aussi pour aborder les épreuves que vous avez suggérées tout à l'heure, là, qui constituent un peu ce climat, comme disait le cardinal 23 dans son discours de clôture, de suspicion, de tristesse, dans laquelle nous allons célébrer cette année le mystère pascal.
On va peut-être effectivement aborder ce sujet délicat qui suscite beaucoup de... Bien sûr, qui suscite une campagne qui est à l'origine d'une campagne médiatique intense et qui trouble beaucoup de catholiques ou de non-catholiques. Précisément, quelle a été, j'allais dire, la position que dit l'Église catholique en France de ces problèmes d'abus sexuels qui, malheureusement, mettent en cause, dans un certain nombre de cas, des prêtres ou des religieux.
Alors, bien sûr que nous nous associons à la réprobation générale par rapport aux prêtres et aux religieux qui ont failli, hein, dans leur engagement et qui sont à l'origine de ces actes abominables et monstrueux sur des enfants sans défense. Et donc nous sommes forcément du côté des victimes de ces actes monstrueux et nous exprimons, hein, notre, notre honte et notre désarroi devant de tels actes perpétrés. Bon, bien sûr qu'il faut bien noter que l'actualité est aujourd'hui très sensible, évidemment, à tous ces cas de pédophilie, ces scandales qui ont éclaté particulièrement en Irlande, aujourd'hui en Allemagne, hier aux États-Unis ou au Canada, tout en sachant qu'aucun diocèse n'est complètement à l'abri, hein, est complètement exempt de ces actes et de ces scandales, dans des proportions évidemment différentes. Il faut d'abord savoir que tous ces scandales se sont quand même échelonnés sur une cinquantaine d'années et ne sont pas seulement d'aujourd'hui et ne sont pas dans cette concentration que l'on semble croire dans les années qui viennent de s'écouler. En France aussi, nous avons eu à traiter ce problème de manière très sérieuse. Et comme vous le savez, la Conférence des évêques de France, dès l'an 2000, s'était emparée du dossier et avait publié en 2002 un petit ouvrage à destination des éducateurs au sein de l'Église intitulé « Lutter contre la pédophilie ». Et nous avions pris des mesures nécessaires d'ordre institutionnel pour prévenir la pédophilie est réglée ces questions sans avoir peur, en effet, de collaborer, hein, avec les tribunaux civils, car toute justice doit être faite et ces actes doivent être réparés aux civils comme aux canoniques. Au cours de cette assemblée plénière, nous sommes évidemment revenus sur tous ces faits. Et je note quand même qu'il faut affirmer, malgré tout, que l'Église est certainement une des rares institutions au monde à avoir abordé les choses avec autant de vérité, de transparence et autant de sérieux, en mettant en place un ensemble de procédures, aussi bien au plan judiciaire que canonique, que spirituel, pour enrayer un tel scandale et guérir de tels maux. Nous pensons en effet au pape Benoît XVI, qui, comme préfet de la Congrégation patronyme de la foi, avait réagi avec une extrême vigueur pour résoudre toutes ces questions et qui est sans doute le premier pape à s'être prononcé de manière aussi forte et aussi ferme, on se rappelle aux États-Unis en particulier, lors de son voyage, face à tous ces scandales. Et je pense encore à cette magnifique lettre qu'il a adressée aux catholiques d'Irlande il y a quelques jours et qui montre à la fois son cœur de pasteur et sa fermeté dans le traitement de ce dossier. Comme l'a rappelé le canal 23, nous aurions été intéressés de voir d'autres institutions faire un travail équivalent au nôtre et je ne connais aucun responsable d'institution civile qui ait présenté des excuses et qui ait pris les choses avec autant de compassion vis-à-vis des victimes que ne l'a fait le pape Benoît XVI et avec lui tous les responsables de l'Église catholique. On voudrait peut-être aussi que le ministre de l'Éducation nationale présente des excuses pour tous les cas de pédophilie qui ont eu lieu dans les écoles du fait des instituteurs, car vous savez que la corporation du clergé n'est certes pas la première corporation touchée par ces scandales de la pédophilie, ce qui n'excuse pas, évidemment, le drame que cela représente et la nécessité de rendre justice dans la vérité et dans la transparence.
On peut tout de même avoir l'impression que ce souci de transparence est relativement récent dans l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine culture du secret dans les années ou les décennies qui nous ont précédés ?
Alors c'est évident, hein, c'est évident qu'il y a eu une culture du secret et le pape Benoît XVI, avec beaucoup de vérité, encore une fois, dans sa lettre aux catholiques d'Irlande, souligne le fait qu'on a été à un moment beaucoup plus soucieux de la réputation de l'Église que du grand dommage et du traumatisme qui était causé chez les victimes de tels actes. Mais il faudra certainement dire aussi que ce climat et cette culture du silence n'étaient pas le fait seul de l'Église. Comme vous le savez, c'était le fait de toutes les institutions. Il ne faut pas faire d'anachronisme et il ne faut pas faire de traitement de faveur à l'Église, car c'était le climat général dans lequel étaient traitées ces questions. On se rappelle même dans les années 70 un certain nombre de paroles toujours vérifiables aujourd'hui, de personnages politiques, d'intellectuels encore en vue aujourd'hui dans la société civile, qui étaient extrêmement indulgents pour ces actes de pédophilie.
Vous soulignez que le cardinal Ratzinger, quand il était à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi, et aujourd'hui le pape Benoît XVI, a vraiment à cœur d'établir la vérité, de dénoncer cette abomination que sont les abus sexuels à l'égard d'enfants ou d'adolescents. Mais comment expliquer dans ces conditions que le pape lui-même soit mis en cause, comme il l'est, par les médias, aussi bien aux États-Unis que dans des pays d'Europe ou dans notre pays? Quand on écoute les commentaires de presse, quand on écoute la radio, la télévision et qu'on lit les journaux, on a le sentiment qu'on souhaite le mettre en cause et qu'il est mis en cause.
Alors c'est certain qu'il y a un acharnement contre la personne du pape, peut-être parce qu'il a présenté beaucoup de fermeté par rapport à toutes ces questions, qui sont fondées sur des calomnies pures et simples. Le porte-parole, ou plus exactement le directeur de la salle de presse du Vatican, le père Lombardi, a expliqué avec beaucoup de détails, tout à fait probants, combien ces allégations n'étaient que pure calomnie. Et c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à un déchaînement qui n'est pas sans nous attrister, nous surprendre. Et je reprendrai tout simplement les mots du cardinal 23 dans son discours de clôture, qu'il dit, je cite, « devant la campagne de dénigrement et de calomnie qui s'organise pour salir la figure du pape, nous avons voulu lui adresser un message de solidarité et de communion. Nous savons tous avec quelle vigueur il a agi, d'abord comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, puis comme souverain pontife, pour mettre à la disposition des évêques des moyens de gérer énergiquement et clairement les situations délictueuses. Donc je pense que sur tous les faits incriminés par la presse actuellement, de manière très légère, on sait que les réponses ou les justifications ont été tout à fait données de manière claire par le Saint-Siège. Mais vous voyez, on assiste quand même à un grand mystère, et ça n'est pas sans à mettre en lien avec cette grande semaine sainte dans laquelle nous entrons, l'Église qui suit son Seigneur dans le mystère de la Passion, de la mort et de la résurrection. Et je pense que nous devons aussi oser faire une lecture chrétienne de ces événements et penser que Jésus a été condamné à mort alors qu'il était innocent. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et certainement que nous devons connaître nous aussi, dans notre mission prophétique de fidélité au Christ, dans cette mission de rédemption du monde, nous devons connaître aussi les accusations fausses et injustes. Et nous devons les vivre comme le Christ, comme un levier de rédemption pour le monde d'aujourd'hui qui n'a pas besoin d'abord de notre justification ni de notre vengeance, mais qui a d'abord besoin de notre offrande, de notre sacrifice, et pour obtenir des grâces de pardon et de réconciliation. Le monde d'aujourd'hui, manifestement, a besoin de réconciliation. L'homme d'aujourd'hui a besoin de se réconcilier avec lui-même. Il a besoin de se réconcilier avec son histoire, qui est la source de la réconciliation des uns avec les autres. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux les offenses et les scandales qui sont perpétrés, y compris par les chrétiens et par des hommes d'Église, mais pas seulement par eux, bien sûr. Et nous pensons à ce que le pape Benoît XVI disait aussi le cinquième dimanche de Carême, à propos de l'évangile de la femme adultère. Il disait, vous voyez, cette femme est pécheresse, ça c'est vrai, et le Christ Jésus ne n'est pas plus indulgent avec elle qu'avec tout pécheur. Elle est pécheresse, mais il montre en disant que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre, que souvent les pécheurs sont accusés par les pécheurs. Et donc nous sommes ramenés à égalité devant ce grand mystère du péché qui naît de cette complicité avec le mal que tout homme découvre mystérieusement ancré dans son cœur, et est invité à se tourner vers le Christ qui nous obtient la grâce de la rédemption.
Monseigneur, l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes a-t-elle débattu du célibat des prêtres qui, pour certains, est plus ou moins directement à l'origine des problèmes de pédophilie dans l'Église?
Ah oui, cette question est tellement, j'allais dire, anecdotique que pas un instant nous n'avons traité de cette question. Dans les questions d'actualité, nous avons très vite dit qu'il n'y avait absolument aucun rapport entre le célibat ecclésiastique et la pédophilie. Je ne veux pour preuve que la majeure partie, l'écrasante majorité des cas de pédophilie n'est pas perpétré par des hommes célibataires, et d'ailleurs ce n'est pas seulement le fait des prêtres, car il y a d'autres célibataires dans le monde, et vous savez que l'état de célibataire est un état qui est en croissance dans la société française de manière importante, mais l'écrasante majorité des cas de pédophilie se situe dans le cadre familial perpétré par des hommes mariés. Donc il est évident que dans la pathologie, pourrait-on dire, qui n'est pas seulement une pathologie, qui est aussi un péché, mais aussi une pathologie, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, même si elle est difficile à définir dont il est difficile de délimiter les contours, mais dans la pathologie de la pédophilie, il y a certainement un dysfonctionnement dans la maturité, dans la maturation psycho-affective de la personne, qui n'est pas liée au célibat ecclésiastique, puisqu'elle peut aussi être abritée par le mariage. Et nous savons bien que le mariage aujourd'hui n'est pas particulièrement florissant pour que nous puissions penser qu'il sera comme une thérapie pour un prêtre célibataire défaillant.
Alors, indépendamment des sujets d'actualité, quels ont été, Monseigneur, les principaux chantiers de cette assemblée plénière des évêques ?
Alors, nous avons poursuivi les chantiers commencés les années précédentes. Le plus important, me semble-t-il, qui nous a occupés pour plusieurs séances de cette assemblée plénière de mars, c'est le fameux chantier « Demain, la vie de nos communautés chrétiennes ». Voyant que nous sommes à la fois confrontés à des difficultés qui persistent, comme le fait que la visibilité de l'Église ou les signes de la présence de l'Église semblent s'estomper dans la société d'aujourd'hui, que la transmission vers les plus jeunes générations est devenue très fragile, que nos communautés chrétiennes s'inquiètent pour les charges d'animation pour l'avenir de nos communautés. La baisse du nombre de prêtres et de vocations sacerdotales qui demeure quand même une grande difficulté pour nous tous, même si nous voyons aussi beaucoup de signes de renouveau. Et je pense que dans la vigile pascale, ces milliers d'adultes qui seront baptisés, une vingtaine dans notre diocèse, sont quand même des signes éloquents d'une vraie vitalité de nos communautés chrétiennes qui, pour être plus petites, n'en sont pas moins responsables par rapport à leur foi, le témoignage de leur foi, non seulement dans l'Église, mais dans le monde. Et puis, on note aussi des signes de renouveau dans la vie de l'Église, des nouveaux modes de vivre la foi chrétienne. On le voit en particulier parmi les jeunes, tous ces grands rassemblements de jeunes, que ce soit Thésée, que ce soit les JMJ, les communautés nouvelles qui rassemblent aussi beaucoup de jeunes qui désirent s'engager dans une vie plus conforme à l'Évangile et plus rayonnante pour le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, tout cela nous met en face quand même de l'avenir de communautés chrétiennes et nous essayons de nous aider mutuellement par le partage de nos expériences, par un certain de questionnements que nous posons ensemble, et bien de voir comment chacun dans son diocèse peut relancer la mission et d'une certaine manière relancer les bonnes volontés dans l'animation de nos communautés chrétiennes.
Monseigneur, vous avez, il y a quelques semaines maintenant, participé à un colloque théologique à Rome sur le thème « Fidélité du Christ, fidélité du prêtre ». C'était un colloque organisé les 11 et 12 mars derniers, dans le cadre d'années sacerdotales, par, je crois, la congrégation pour le clergé. Vous avez fait une intervention et la Croix du 15 mars a rapporté une petite phrase de votre intervention dans laquelle on pouvait avoir l'impression que vous remettiez en cause la mise en œuvre de la réforme liturgique issue du Concile Vatican II. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors écoutez, oui, en effet, je sais que dans le cadre de cette année sacerdotale, dont nous avons parlé d'ailleurs pas mal au cours l'assemblée plénière, l'assemblée sacerdotale qui, comme disait le cardinal 23, nous a un peu réveillés par rapport au ministère des prêtres et nous a permis de nous exprimer plus clairement aussi sur le ministère des prêtres dans l'Église d'aujourd'hui, dont nous avons aussi tant besoin et qui devient de plus en plus urgent aussi pour nos communautés. Mais en effet, dans ce cadre-là, le Saint-Siège a organisé un colloque officiel, un congrès théologique, intitulé « Fidélité du Christ, fidélité du prêtre », qui est le thème d'ailleurs que le Saint-Père Benoît XVI avait assigné à l'année sacerdotale, qui a tourné autour d'un certain nombre de thèmes, essentiellement centrés sur l'identité du prêtre, comme configuré par une grâce particulière du sacrement de l'ordre au Christ, tête et pasteur de son Église. Et ce qui nous a permis d'aborder aussi d'autres questions et deux dimensions importantes qui étaient au menu, si je puis dire, de ce congrès théologique, était la question de la liturgie et le prêtre dans la liturgie comme lieu d'expression privilégiée de son identité sacerdotale. Et puis la question du célibat sacerdotal qui a été abordée de manière à la fois théologique, historique et puis psychospirituelle. Et pour ma part, j'avais été invité personnellement par le secrétaire de la Congrégation pour le clergé, qui était à l'initiative de ce congrès théologique, Mgr Mauro Piacenza, qui m'avait demandé si je pouvais faire une petite communication de 10 minutes, vous voyez, qui devait prolonger une conférence, évidemment plus longue, du cardinal Canizares, qui se trouve être le nouveau préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Et il m'avait même commandé le titre en me disant ben, « Vous parlerez, s'il voulait bien, de, je le dis en italien, parce que c'est en italien que la commande m'a été faite, la liturgia ferita », qui se traduit littéralement par « la liturgie blessée ». Alors, je lui ai demandé, en effet, ce que voulait dire, qu'est-ce qu'il entendait par liturgie blessée et sur quoi il voulait que je parle. Il m'a demandé ben, de parler de tout ce qui, dans notre manière de célébrer, peut blesser la liturgie. Voilà. Et nous savons bien que c'était une préoccupation de Jean-Paul II pendant toutes les dernières années de son pontificat et une grande préoccupation aussi du pape Benoît XVI dans la ligne, bien entendu, de la réforme liturgique qui a été voulue par le Concile et dont moi, personnellement, je vis depuis ma plus tendre enfance, mais en particulier comme prêtre, dont j'ai toujours eu à cœur de mettre en valeur la beauté et la sacralité, n'est-ce pas ? Eh bien, une préoccupation de Jean-Paul II, comme Benoît XVI, de dire que parfois, un certain nombre d'abus, de déformations, ont pu blesser la liturgie et donc blesser notre identité chrétienne et blesser l'identité de l'Église et même du prêtre. Sans faire de généralisation, sans juger quiconque, bien sûr, parce que nous en sommes tous responsables, et bien sûr, sans remettre en cause la réforme voulue par le Concile, c'est bien évident. Et c'est vrai que cette petite phrase qui était rapportée par la Croix, alors que par ailleurs, je m'étonne que la Croix n'ait fait aucune relation à ce colloque, de ce colloque théologique quand même, qui était un événement important, qui a rassemblé plus de 700 congressistes, dont une cinquantaine d'évêques et 550 prêtres du monde entier, car je ne m'adressais pas à des Français, hein, je m'adressais à un public international. Eh bien, la Croix a tiré de son contexte une phrase de mon exposé, et en plus, elle est tronquée. Et de fait, le sens n'apparaît plus et peut être source d'ambiguïté et a jeté un trouble que je déplore, parce que je n'ai absolument pas remis en cause ni le Concile ni la réforme liturgique. Mais j'ai seulement, pour répondre à une commande qui m'était faite par le Saint-Siège, essayé de montrer comment notre manière de célébrer pouvait parfois blesser la liturgie et comment une attention excessive à la participation extérieure et à la distribution des rôles dans la liturgie pouvait se faire au détriment de la participation intérieure au mystère qui est célébré, puisque la liturgie, comme on le sait, c'est rappelé par le Concile, c'est la célébration du mystère pascal du Christ, et le Christ doit avoir la première place, et donc tout doit nous aider à entrer dans ce mystère. Et donc je crois que c'est d'ailleurs le but de la réforme liturgique, que de nous permettre de participer pleinement à ce mystère, en la rendant d'ailleurs plus accessible, cette liturgie, pour qu'elle soit aussi vraiment la source de notre vie chrétienne. Hein, je me suis seulement exprimé là-dessus et j'ai dit qu'elle avait été blessée, pas par la réforme, mais blessée par ce que Jean-Paul II a appelé des manières de faire inacceptables dans son encyclique sur l'Eucharistie, vie de l'Église, comme vous le savez, où il avait parlé justement des ombres et des lumières de la réforme liturgique. Mais il est bien évident que je ne peux pas, dans un colloque officiel, invité par le Saint-Siège, parler autrement que dans le sens du Concile qui accompagne ma vie sacerdotale depuis l'origine.
Monseigneur Ayé, parlons un peu de ce que vous faites dans notre diocèse. La liturgie, certainement, doit être au cœur de vos préoccupations lorsque vous visitez les paroisses. Alors, vous nous aviez parlé la dernière fois de votre première visite pastorale à Mourenx. Vous en avez fait deux depuis. Alors, comment ça s'est passé?
Alors, donc, ça, à chaque fois pour moi, c'est un des moments de grande joie que de passer 5 jours dans une paroisse. Et là, j'ai fait donc 2 visites très contrastées, puisque au mois de fin février, j'ai visité la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Haute-Soule. Hein, donc, c'est une paroisse très rurale, extrêmement attachante, hein, où j'ai été très heureux de toutes ces rencontres avec les paroissiens, les prêtres, les élus, le monde à la fois d'église et le monde de la société, avec une très belle complicité, une très belle familiarité qui s'établit toujours avec les uns et les autres, et dans un sentiment de grande confiance, de grande joie, où toutes les questions sont abordées, où je réponds à toutes les questions, parce que je crois qu'il n'y a aucune question qui soit indiscrète, et en particulier aux inquiétudes qui peuvent venir quelquefois d'une image, de paroles rapportées par les médias, et qui, comme s'en accordent généralement les fidèles, ne correspondent pas vraiment à la réalité. Donc c'est pourquoi je mise beaucoup sur ces rencontres, hein, sur cette réalité de la relation sur le terrain. Et puis ensuite, j'ai visité la paroisse du Christ Sauveur de Pau, donc le centre-ville de Pau, donc c'est tout à fait une autre configuration. Et là aussi, j'ai été extrêmement heureux de rencontrer tous les groupes constitués, actifs dans la paroisse, de participer à des célébrations liturgiques dans chacune des églises de cette grande paroisse, d'avoir des rencontres de travail avec les prêtres, avec le conseil pastoral. Je pense en particulier à une rencontre sur la liturgie avec un nombre impressionnant d'acteurs de la liturgie, donc les équipes liturgiques sont assez nombreuses sur ces relais du Christ Sauveur, les organistes, ceux qui sont chargés de la décoration de l'art floral liturgique, les animateurs des messes, beaucoup de gens impliqués. On a pu parler justement de liturgie et de beaucoup de choses, et j'ai participé en effet à de très belles liturgies avec des chorales, et voilà, j'ai souligné d'ailleurs la joie avec laquelle j'avais participé à ces belles liturgies qui avaient rassemblé le samedi soir toute la paroisse à Notre-Dame et puis le dimanche matin à Saint-Martin. Qualité de la liturgie qui permettait en effet d'entrer pleinement dans ce mystère du Pascal du Christ.
Alors, Monseigneur Ayé, lors de votre visite à Tardette, je crois que c'était le week-end de la tempête, de la fameuse tempête. Pour l'anecdote, vous avez été privé de lumière.
C'est ça, donc l'électricité nous a été enlevée à 17h. Donc nous avons terminé la messe de 18h presque à la chandelle. Nous avons dîné chez des paroissiens à la chandelle et ils avaient fait réchauffer leur plat au feu de bois. Et nous sommes couchés aussi avec une bougie. Et l'électricité n'est revenue que le lendemain vers 15h30, alors que je quittais Tardets pour retourner à Bayonne.
Pour terminer cette émission, comme à l'habitude, Monseigneur Ayé, nous allons évoquer votre agenda et l'agenda diocésain en pointant quelques événements marquants à venir. Alors, le premier événement, ce sera le dimanche 11 avril. Vous marcherez.
Je marcherai. C'est la journée des confirmés de l'année dernière, organisée par le service diocésain de la catéchèse, comme chaque année. Et cette année, nous allons organiser cette journée en lien avec la propédeutique qui va entamer ce jour-là, qui sera d'ailleurs le dimanche de la Miséricorde, son grand pèlerinage à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, qui fait partie du programme de cette année de discernement et de fondation spirituelle de leur vocation. Et donc ils vont marcher, je les accompagnerai après la grand-messe qui aura lieu à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, où je bénirai les pèlerins qui vont s'engager pour un mois quand même de pèlerinage. Et nous marcherons toute cette première journée avec eux.
Ensuite, vous visiterez une paroisse de la Côte Basque.
Voilà, donc je continue mes visites pastorales, comme vous le savez, au rythme d'une visite par mois, 5 jours par mois. Et ce sera donc les deux paroisses, en fait, d'Anglette, hein, à la fois Saint-Jean l'Évangéliste et Louis-Édouard Sestac, que je visiterai ensemble, parce qu'au fond, c'est une seule commune, et c'est d'ailleurs un doyenné. Et donc, je partirai à la rencontre de toutes les réalités ecclésiales et humaine de ces deux paroisses.
Début mai, vous serez à la cathédrale d'Oloron le premier dimanche de mai.
Voilà, nous accueillerons à Oloron, à la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron, le dimanche 2 mai, Monseigneur Jean Lafitte, qui est un fils d'Oloron, vous rappelez que j'avais participé avec Daniel Deschat, le curé d'Oloron, de la Trinité d'Oloron et de Saint-Jacques du Piémont, j'avais participé à l'ordination épiscopale à Saint-Pierre de Rome de Jean Lafitte, qui a été nommé en effet par le Saint-Père secrétaire du Conseil pontifical pour la famille. Alors il viendra célébrer une messe d'action de grâce et je serai heureux de l'y accueillir.
Le dimanche 25 avril, quatrième dimanche de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur et l'Église nous invite à prier dans le monde entier pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Voilà, alors donc ça c'est d'autant plus d'importance, n'est-ce pas, dans cette année sacerdotale que de prier pour les vocations comme nous le faisons dans le diocèse depuis longtemps et dans bien des endroits, et en particulier à travers les deux chapelles d'adoration perpétuelle. Hein. Nous avons célébré le premier anniversaire de celle de Bayonne, qui continue très fidèlement de rassembler beaucoup de fidèles, de prêtres, de religieux, pour cette grande cause de la prière pour les vocations sacerdotales. Et vous savez qu'à cette occasion, nous sensibiliserons aussi les fidèles pour l'œuvre des vocations, et en particulier pour la rénovation du couvent des Capucins, où devraient s'établir le plus vite possible les propédeutes, hein, cette année de propédeutique. Et donc nous délivrerons à ce moment-là, nous diffuserons ce message du Saint-Père pour cette journée mondiale de prière pour les vocations, qui insiste en cette année sacerdotale sur le témoignage des prêtres comme source d'appel au sacerdoce.
Le lendemain, vous rejoindrez d'ailleurs les propédeutes du diocèse et vous ferez vous aussi un bout du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Alors je vais essayer de marcher 4 jours avec eux, donc j'espère que j'aurai assez d'entraînement parce que eux, ça fera déjà 15 jours qu'ils seront partis, donc ils auront déjà acquis un rythme que j'ai un peu peur de ne pas pouvoir suivre, mais enfin j'essaierai moi aussi de prendre ma part de souffrance pour cette belle démarche de pèlerinage qui sera pour eux une belle expérience qui leur permettra justement de bien digérer, intégrer la multiplicité des activités qui constituent cette année de propédeutique.
Merci beaucoup à Mgr Raillé. Très bonne fête de Pâques à vous-même et à tous ceux qui nous ont suivis. Également à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication. Merci à tous.
Merci.
Shema Israël. Audi Israël. Écoute Israël. Ensun Israël. Escute Israël.
C'était l'entretien de la Semaine Sainte avec notre évêque, Mgr Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Un entretien que vous pouvez écouter ou réécouter à partir du samedi 15 sur le site internet de la radio www.lapourdi.net.